Oh, oh, salut, salut, t'es sur Radio Classon, 107.7, 87.5 selon les moments. Il est midi et quelques petites minutes dépassées et on va vous faire une revue de paresse. On décortique un peu des articles qu'on a trouvés dans des sites amis et autres et on va essayer de faire ça dans une demi-heure, une heure, voilà, le temps de vous balancer pas mal d'infos pour aujourd'hui.
Eh ben, on va commencer avec un petit point agenda pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les prochains jours. Alors, ce soir, il y a une assemblée à Nantes, à B17. C'est une AG interprofessionnelle des luttes. Du coup, c'est après 4 mois de mobilisation contre la loi travail en mars, avril, mai, juin dernier. Et cette première manif d'après-vacances d'été du 15 septembre, l'AG interprofessionnelle des luttes de Nantes, issue de l'appel en bloc, tout continue à débattre et à construire la suite du mouvement social. Voilà, c'est à B17, du coup 17 rue Bellamy, à Nantes, à 19h. Dans la semaine, il y a autre chose qui se passe. Je vais parler de demain soir, du coup mercredi 23 novembre à 18h30 à Rennes. Il y a la projection du documentaire « Qui a tué Ali Ziri ?». C'est à la maison de quartier de Vigan. C'est de 18h30 à 22h. Et une marche commémorative sera organisée le samedi 3 décembre à partir de 14h30, place du Gast à Maurepas. Et du coup, le programme de la soirée de demain, c'est la présentation du collectif, le comité Vérité et Justice pour Babacar Gueye, qui a été créé suite à la mort de Babacar Gueye, tué pour la police le 3 décembre 2015 à Maurepas, sous quartier de Rennes. Après 19h, il y aura la projection du film et à 20h30, des échanges avec le réalisateur. Voilà, avec une cagnotte pour les frais de justice.
Et pour info, cette semaine sur la ZAD, il y a un rencard pour préparer la marche du 3 décembre en hommage à Babacar. Faut regarder dans les news, il y a la date, je crois que c'est jeudi, mais je suis pas sûre. En tout cas, il y a des gens qui se motivent à en discuter pour y aller ensemble le 3 décembre à Rennes.
Et samedi, c'est la fête des 5 ans de l'opposition au projet de centrale à gaz à l'Indivisio dans le Finistère. Et du coup, il y a une fête à partir de 18h à l'Indivisio. C'est un repas et c'est où ? Il y a un défilé à la bougie et au flambeau. Voilà. Et un repas plus libre à partir de 20h. C'est dans le Finistère Nord. Et sinon, c'est la semaine du 25 novembre qui est date assez importante, c'est la journée mondiale contre la violence faite aux femmes. Et du coup, il y a une manifestation non mixte contre la violence sexiste qui se passe à Rennes, vendredi, à 18h30. Le rendez-vous, c'est à la place de la mairie. Il y a un appel qui est lancé dans lequel s'expliquer c'est quoi cette manif et pourquoi cette non-mixité. Du coup, je voulais juste lire pourquoi la non-mixité. Parce que nous souhaitons nous réapproprier l'espace public qui nous est trop souvent confisqué par le comportement masculin, de jour comme de nuit. Notre lutte ne peut être menée que si nos voix sont entendues. Et pour cela, nous souhaitons faire face aux agressions collectivement, sans avoir à être défendus par des hommes cisgenres, aussi bien intentionnés soient-ils. Voilà, je vous invite à lire cet appel.
Ça, c'est quoi? C'est vendredi?
Vendredi à 18h30 à Rennes. Et il y a la même à Nantes, mais pas à non-mixité. Il y a un appel à manif à 18h30, place du commerce, vendredi 25.
Okay.
Du coup, c'est l'histoire de la journée du 25 novembre. Depuis 1981, ça a été décidé que c'était la journée où on rappelait les violences faites aux femmes. Et je vais un peu raconter pourquoi cette date. Et en fait, on rappelle le 25 novembre 1960 et l'assassinat des sœurs Mirabal en Santo Domingo, du coup en République dominicaine. Et c'est l'histoire des deux sœurs qui ont essayé de s'organiser contre la dictature de Trujillo. Alors, je ne sais pas lire l'espagnol. Tu sais lire?
Trujillo.
Voilà, un truc comme ça. Bref, le dictateur qui avait en République dominicaine. Et en fait, c'est une histoire de ces deux sœurs qui, avec leur famille, elles avaient été invitées à une fête chez le dictateur, qui était tombé amoureux d'une de ses sœurs, Minerva, et qui avait, face à un refus de sa part, il avait incarcéré sa famille et ses potes, il les avait interrogés pendant des semaines parce qu'elle était proche du Parti Socialiste Populaire à l'époque. Cette première incarcération mènera à la mort de son père, du coup, qui a été gravement blessé et humilié. Quelques années plus tard, en 1954, du coup, après cette expérience qui était en 1949, les deux sœurs, elles épouseront deux personnes toujours dans le même parti socialiste populaire. Et avec leur époux et d'autres personnes, elles se retrouveront à discuter de comment mettre fin à cette dictature. C'est un contexte, c'est un climat social assez particulier dans les Caraïbes et en Amérique latine, où il y avait eu les années d'avant, il y a eu la chute du dictateur colombien Pinilla et celle du vénézuélien Jiménez et la fuite de Cuba du dictateur Batista. Après le triomphe révolutionnaire des forces rebelles de Fidel Castro. Et du coup, en République dominicaine aussi, on commence à réfléchir à qu'est-ce que ça pourrait être la fin de cette dictature. Et du coup, ces deux sœurs, avec d'autres personnes, elles se retrouvent dans un mouvement qui s'appelle le mouvement de 14 juin, qui réfléchit à cette fin de dictature et qui commence à s'organiser. Mais l'aventure se termine assez rapidement parce que ce mouvement, les membres de ce mouvement, ils sont arrêtés, mis en prison, plusieurs ils sont torturés. Les deux sœurs, elles sortent de prison parce que suite à la pression de pas mal de familles bourgeoises de République dominicaine qui avaient leurs enfants en prison, il y a les femmes et des membres de ces familles qui sortent de prison. Mais l'histoire pour les sœurs Mirabal se termine le 25 novembre 1960 quand elles sont assassinées en allant visiter leur mari en prison. C'était une pratique qui était assez fréquente dans ces dictatures et du coup leur voiture elle est bloquée sur la route. Elle est bloquée sur la route. Les conducteurs ils sont tués par coup de rafale de balles et les deux sœurs sont amenées plus loin et sont tuées à coups de machette. Voilà, c'est une histoire qui se termine un peu mal, mais du coup c'est une journée où on rappelle cette histoire-là et qu'on lutte contre la violence faite aux femmes. Et moi j'avais envie de parler aussi, du coup, comme c'est une histoire de femmes militantes, je voulais rappeler aussi d'autres femmes militantes qui sont mortes. Il n'y a pas très longtemps que ça, c'était le 9 janvier 2013 à Paris. Et c'est Sakine, Leila et Fidan. Du coup, trois femmes kurdes, militantes kurdes, qui ont été assassinées en plein centre de Paris. On soupçonne la collaboration quand même de la France qui, jusqu'à maintenant, elle n'a pas réussi à trouver de responsables et le procès il s'éternise. On voulait raconter peut-être qu'est-ce qui se passe en Turquie.
Ouais, en Turquie ça va pas mieux, si c'est ça la question. Par rapport par exemple aux violences faites aux femmes, il y a un article qui a été publié sur le site du Monde, je crois hier, et qui raconte que la Turquie pourrait dépénaliser des agressions sexuelles sur des personnes mineures. C'est un projet de loi qui a été voté le 18 novembre en première lecture par le parti au pouvoir, le parti d'Erdogan. Et il devrait être de nouveau examiné ces prochains jours par le Parlement. Et ce projet de loi, il prévoit d'annuler dans certains cas la condamnation pour agression sexuelle sur mineurs. Si l'auteur de l'agression épouse la victime. Ça fait quand même un peu de renou, vu l'énormité de la chose. Il y a près d'1 million de protestataires qui ont signé une pétition Et il y a même des partis plutôt amis de l'AKP qui sont critiques par rapport à ce projet de loi. On voulait encore parler un peu de la Turquie. Il y a un appel des soutiens d'Erdogan, des milices de l'extrême droite turque, qui manifestent en Europe et notamment à Paris pour défendre leur leader Erdogan. Il y a eu ça à Paris ce week-end. Et c'était dimanche 20 novembre. Et donc il y avait un rassemblement pro-Erdogan, place de la République à Paris. Il y a eu une contre-manifestation qui a attaqué ce rassemblement, malgré la protection policière et aussi le service d'ordre des pro-Erdogan. Le contre-rassemblement s'est fait repousser par la police. Il y a eu une manifestation sauvage avec des barricades, des affrontements avec les flics et une pluie de lacrymo. En Europe, les milices de l'extrême droite turque ont attaqué de nombreuses manifestations en soutien aux Kurdes. Et cette semaine, l'Institut culturel kurde de Bruxelles a été incendié. Donc ça pue en Turquie, mais ça pue chez nous aussi et en Europe, où il y a donc ces miliciens pro-Erdogan qui font des rassemblements de soutien.
Du coup, l'Europe, on peut dire, s'obstine encore à ne pas prendre position par rapport aux Kurdes.
À ne pas prendre, t'as dit ?
Oui. Bah, c'est quelque chose qui est reproché par les Kurdes, qui ça fait des années qu'ils se disent qu'est-ce qui se passe, pourquoi en Europe personne parle de nous, pourquoi les États ils se positionnent pas.
Avec dans les médias dominants genre France Culture et autres, un discours de les combattants kurdes sont des terroristes, qui est un discours tenu et où il n'y a aucune critique par rapport à ce discours-là. Dans Le Monde, par exemple, on peut lire ça, dans France Culture et choses comme ça.
Il y a un discours, oui, moi je trouve qu'il y a un discours ambigu entre, oui, c'est des terroristes, ceux qui sont en Turquie, mais par contre, les Kurdes qui se battent contre Daesh, c'est des héros. Du coup, ça fait toujours un truc où... C'est pas clair, quoi. Où les États, en fait, ils auraient envie à des moments peut-être d'appuyer plus les Kurdes, mais de l'autre, il y a la menace de la Turquie d'ouvrir les robinets des migrations. Plein d'histoires comme ça qui se mêlent. Et en tout cas, bah, on est encore dans la même situation où j'ai l'impression que c'est de pire en pire pour les Kurdes, selon ces infos-là.
Ouais, on passe un peu de son parce que là.
Oui, on fait une pause. Ça va marcher. Oui.
Yo contigo corro desnuda por la vida. Jugué de Braga. Desde Sevilla, Quilla.
Qué maravilla, ja.
Nosotras lo sabemos, aquí estamos en la lucha. Si no te gusta cómo empieza,
corre, date una ducha.
Refresca tus ideas, que entramos ya en la pelea. Vamos rompiendo huesos, tu esqueleto se menea. Esta es nuestra condición, no queremos tu perdón. Salimos a la calle, abrimos aquel cajón. Me mentiras y metas pa' que caigamos en un socavón. Machirulo, ve con ojo, escucha, mira y chitón.
Que te calle ya, cojones.
Entérate, entérate. Mujeres lucha, ¿cómo lo ves?
Tumbamos tu soplío, toda la represión. Nos rebelamos ante cualquier tipo de cabrón. Juntas violamos todas las leyes de gallardón. Ni sumisa ni devota,
apostamos por la unión.
Y el que se ponga en medio, pum, un bofetón.
Justicia por nuestra mano ante alguna violación.
No pasamos por alto ni la mínima agresión.
Haremos lo que nos salga del coño y del corazón. Bum, bum, en la calle todo vale. Bum, bum, luego nos dirán cobardes. Bum, bum, tu mensaje en mi botella, boom, 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 date y revienta la mecha.
Mis amigas, mis hermanas, ellas forman mi manada, aullando juntas en lucha con la rabia engalanada. Descosimos los vestidos, nos quitamos nuestras bragas, para luchar en rebeldía no necesitamos nada.
Nada de nada, nada
de nada, de nada. Despeinamos a la luna, desquiciamos nuestras almas con la rabia más gatuna.
Arañamos como gatas.
Cosimos los corazones, nuestras manos, las miradas. Cosimos nuestras ideas, que en verdad son las que mandan. Las que llenan mis salivas, las que escriben mis palabras. Las que como no respeten,
escupirán a la cara. Porque sí,
tenemos miedo
y lloramos.
Ni podemos, no me subo la bragueta. Y hoy me quito la careta, que en la sombra me camufla. Y que no entiende mi lucha compartida.
¡Vamos!
Me contagio con tu fuerza y me hago fuerte con ellas. Que sin aires de grandeza no me empuja ni me aprieta. No me asfixia, me vacila, me somete, me desprecia ni atropella.
Mis raíces, mis ovarios.
No necesito cojones ni machotes, vacilones que soporten pantalones con delirios de grandeza. Me confieso, soy mujer y es mi fuerza de mujer la que me mueve. En la calle todo vale, boom, boom. Luego nos tiran cobardes, boom, boom. Tu mensaje en mi botella, boom, 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 boom. La que revienta la mecha.
En la calle somos muchas mujeres las que luchan. En la calle en bicicleta, pateando, dando vueltas. No te quedes dura, canta, mándale cumbia. En la calle somos muchas, buscando nuevos rumbos. Buscando compañeras, odiando a los caretas. Abriendo la cabeza,
viviendo a mi manera.
Garras y colmillos,
contra el enemigo.
Acción directa,
mente consciente.
En la calle, en la casa, en la sala, en la plaza, en la cama.
Luchando organizada,
no me quedo parada. Plantada haciendo frente, mostrando bien los dientes.
Bolas explotadas, bolas marginadas.
No quiero ser violada,
y que no pase nada.
Y cuando algo pasa, aumenta más mi rabia. A veces tengo miedo, a veces mala suerte. Sé lo que no quiero, mi manada me hace fuerte.
En la calle todo vale, boom, boom. Luego nos tiran cobardes, boom, boom. Tu mensaje en mi botella, boom, 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 boom. Arde y revienta la mecha.
Esos momentos inciertos, lejos, despierto amaneciendo con vuestro reflejo. Yo siento tan dentro, os ponéis en mi pellejo. Sabéis de lo que hablo, los gestos, juntas el resto del camino
y pa' los restos.
Esto es pa' salirse, tijera para todas,
pistola.
La loba loca es mi manada, la antimachirulo armada ya. Sin miedo, ni dueños, ni cuentos de hadas. Cada una, mil balas apuntando a un sistema patriarcal que pone precio a nuestro cuerpo y nuestra libertad,
ni una más.
Almas enredadas como ramas, hermanas, negras, blancas, gordas, flacas, las más malas, la puta, las raras, dando la cara por esas pájaras que extienden las alas.
¡Ala!
Mira cómo vuela la bandada, sin dudas, desnudas,
libres, salvajes y peludas.
Niña, nada, abre tus membranas, que las olas, las aguas, la mar y una marea de mujeres te acompaña. Todas somos muchas en la lucha, en babuchas o en capucha. Escucha, nosotras, las brujas, hartas de una historia de cobardes. Bailamos a la luna en las noches de aquelarre, vengando a nuestras madres, echamos a los amos al fuego
y no veas cómo arde.
Ya lo sabes, unidas avanzamos en la calle y en la cama, pero nunca por el aro.
Por el aro. Las mujeres de mi vida me despiertan para seguir soñando.
Coucou, salut, salut.
Oui, vous êtes toujours sur Radio Klaxon, c'est 107.7 ou 2x87.5. Et on est toujours en train de vous faire une revue de paresse qu'on va essayer de vous faire une fois par semaine si on est assez fort et forte.
Plutôt les mardis. En vrai, on y arrive.
Bon, c'est le deuxième mardi. Plutôt le mardi vers midi.
Et on vous invite à nous envoyer des petits messages. Si vous avez des infos à faire passer, bah, c'est le moment. Et s'il y a des oublis de The News ou des petites choses à rajouter, vous pouvez. Et ça sera rediffusé aussi demain à 9h. Dans la catégorie facho, on continue. Là, on va vous causer un peu de qu'est-ce qui se passe après l'expulsion à Calais, après l'expulsion de Stalingrad, enfin les rafles à Stalingrad et à Paris. C'est quoi la situation ? Et dans le genre, il y a eu lundi 14 novembre, donc pas lundi, hier, dans la semaine d'avant, il y a eu une manifestation d'identitaires à Arzon. Arzon, c'est Fred Van. Et les miliciens ont essayé de pénétrer dans le CAO, Centre d'accueil et d'orientation pour mineurs, qui est installé à Port-Navalo. Donc ça, c'est près de nous, et des gens qui ont essayé de rentrer, des FAF qui ont essayé de rentrer là où étaient hébergés des mineurs, migrants, migrantes. Il y a pas mal de protestations cette semaine dans ces centres d'accueil et d'orientation. On a des infos selon s'il y a des gens, des collectifs, des soutiens qui sont là pour relayer ces mouvements de protestation. C'est le cas à Rennes où il y a un communiqué des migrants et migrantes du CAO de Rennes qui est donc un communiqué qui a été traduit vers le français et qui a été publié sur le site rennaisexpansif.info où les personnes migrants en migration racontent qu'en fait ils n'ont pas accès à leurs droits ni à de l'information concernant leur situation, qu'on leur a promis qu'ils ne seraient pas dublinés, c'est-à-dire renvoyés dans le pays dans lequel leurs empreintes digitales ont été prises, et en fait c'est en train de se mettre en place qu'il y a des gens qui vont se faire renvoyer en Italie. Du coup, pour protester, ils sont en grève de la faim depuis le 15 novembre. Il y a, sinon, ce qui se passe, c'est que dans d'autres CAO, les associations, elles s'administrent, elles se posent en gestionnaire des personnes en migration et elles tendent à minimiser ou à nier la capacité des gens à apporter elles-mêmes leurs revendications. Du coup, plutôt, elles vont pas parler de... Elles vont qualifier ça de malaise plutôt que de protestation ou de révolte. Donc ça, c'est ce qui se passe au CAO de Bossé, où également des personnes sont mises en grève de la faim pour des raisons similaires à celles des personnes du CAO de Rennes. Du coup, ça dénonce la gestion des assos du conflit, et elles n'hésitent pas à se positionner en médiateur, médiatrice, négociatrice avec les autorités. Et les personnes concernées n'ont pas la possibilité de s'exprimer en leur nom. À Laon, dans l'Aisne, il y a eu aussi des protestations. La colère des exilés s'est manifestée pour des raisons qui ne sont pas précisées par les soutiens sur place. Et il y a une personne, suite à ce mouvement de révolte, qui a été placée en garde à vue. C'est assez dur donc de savoir les révoltes au sein des CAO. Des fois, ces CAO sont très isolés, éloignés des réseaux de soutien. Il y a des gens, des collectifs qui font staff un peu de savoir qu'est-ce qui se passe dans les CAO, mais il y a quand même des endroits où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas c'est quoi les conditions d'accueil. Moi, j'ai entendu dire par exemple des endroits où les gens peuvent pas sortir du CAO, doivent rester pendant 3 mois dans le même bâtiment, sinon leur demande d'asile est rejetée. Des choses comme ça qui apparaissent, mais qui sont peu connues, parce que si les personnes ne peuvent pas sortir, elles ne peuvent pas non plus témoigner de leurs conditions de non-accueil plutôt. Également, il y a eu des personnes la semaine dernière qui ont risqué de se faire expulser depuis la France vers le Soudan, donc vers Khartoum, qui est, où il y a le dictateur al-Bashir. Il y a plutôt une forte mobilisation, et face à ça, la préfecture du Pas-de-Calais et le ministre de l'Intérieur ont lâché du lest. Et ils ont libéré une partie des exilés soudanais qui étaient enfermés au centre de rétention de Vincennes. Mais ils en ont maintenu d'autres en rétention. Pourtant, il y a une personne qui est toujours sous le coup d'une déportation vers le Soudan. Et c'est aujourd'hui qu'il y a un vol pour Khartoum, ce soir à 21h20, qui est toujours prévu depuis Paris vers le Soudan. Et donc ça, la mobilisation, on espère qu'elle va continuer et que ça va empêcher cette déportation. Enfin, il y a à Paris, il y a un appel à manifestation ce samedi, une manifestation inter-orga. C'est ce samedi à 14h, place Stalingrad, là où il y avait beaucoup de personnes suite à l'expulsion de Calais qui avaient rejoint le campement de Stalingrad. C'est face au tri, à l'enfermement et à l'expulsion des personnes en migration, la lutte est la seule perspective. Donc ça rappelle que le 4 novembre, il y a eu des centaines de flics et des travailleurs et de bénévoles des associations comme France Terre d'Asile et Emmaüs qui ont fait monter des migrants dans des bus et les ont déplacés aux quatre coins de l'Île-de-France sans les informer de où ils allaient être conduits. Donc sous le couvert d'une opération militaire, c'est bien une intervention policière qui a eu lieu ce matin-là. Il y a aussi un centre d'accueil qui a été ouvert à Paris. Et idem, en fait, ça ressemble plutôt à un centre de tri qu'un centre d'accueil, avec les personnes qui arrivent dans ce centre à Paris. On prend leurs empreintes digitales et on les met dans des fichiers européens de Eurodac, qui est le fichier des empreintes digitales des personnes en migration. Et du coup, on voit lesquelles sont expulsables, c'est-à-dire sans papier, et avec des reconduites à la frontière possibles, comme c'est le cas là pour la personne soudanaise aujourd'hui. Il y a aussi des centres spécialisés qui devraient être créés dans le cadre d'un nouveau dispositif. Et l'objectif de ce dispositif, c'est de renvoyer un maximum de personnes en les assignant à résidence après qu'elles aient été identifiées. Du coup, c'est des espèces de centres de rétention, mais qui ne disent pas leur nom. Donc ça s'appelle un dispositif Prada, c'est un truc qui vient de sortir. À Paris, là où il y avait les gens qu'ils ont expulsés, la mairie a mis des grilles pour empêcher les gens de revenir. Ils ont également mis un marché de Noël, et ils ont mis des bars éphémères. et ils ont aussi installé, comme si c'était l'époque et le moment, un skatepark, des tables de ping-pong et un mur d'escalade. Voilà, on fait place nette, on efface la présence des indésirables et on met des bars et des lieux comme ça. Du coup, il y a cet appel à manif samedi à Paris. On va mettre un peu de musique.
Music is the weapon. Music is the thing of the future. Music is the weapon of the future.
El tambor es el centro de la música. Y el tambor es...
Enough to make a dirty bomb.
There was a laptop making a dirty bomb.
Dirty
bombs. Dirty bombs.
Dirty bombs.
As you heard just now.
A dirty bomb.
Dirty bomb.
Su ritmo tiene un claro efecto hipnótico.
And it could be used in dirty bombs.
Dirty bomb.
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 This is the
dirty bomb.
Klaxon, ouais, moi je voulais lire un article qui est paru dans Billets d'Afrique en février 2016. C'est Billets d'Afrique, c'est la revue éditée par Survie, l'association contre la France-Afrique. Voilà, ça parle d'un rapport de mission d'observation de la situation humanitaire et des droits de l'homme. C'est un rapport qui est paru en avril 2015. Du coup, ça date un peu, mais ça parle de l'état d'urgence. Alors, l'instauration du régime d'exception en France suite aux attentats de novembre 2015 a coïncidé avec sa mise en place dans plusieurs pays françafricains. Outil habituel des dictatures, il est fort utile pour la répression de l'opposition intérieure au régime et a partout prouvé son inefficacité à faire baisser le niveau d'une violence parfois entretenue par les gouvernements eux-mêmes. Le 9 novembre 2015, quelques jours avant la France, le Tchad décrétait l'état d'urgence dans la région du lac Tchad, frontalière notamment du Nigeria, suite à des tueries attribuées au groupe Boko Haram. Le Mali leur emboîtait le pas le 21 novembre, à la suite de la prise d'otage de l'hôtel Radisson Blu. À Djibouti, le dictateur Ismaël Omar Guelleh décrétait à son tour l'état d'urgence le 24 novembre. Dans l'ensemble de ces pays, les textes qui encadrent l'état d'urgence sont identiques au mot près à la loi française, ne différant que dans la dénomination des territoires concernés et quelques autres spécificités nationales. C'est l'illustration du lien de dépendance maintenu par le colon qui a dépêché des conseillers juridiques auprès des gouvernants vassaux mis en place à la décolonisation, générant des constitutions identiques à celles de la Ve République. Comme d'autres dispositifs instaurés au nom de la lutte contre le terrorisme, l'état d'urgence dans les pays africains est aujourd'hui bien souvent l'occasion d'une communication à destination de la communauté internationale pour montrer la solidarité dans une lutte globalisée. Il fournit notamment des arguments aux autorités françaises dans leur soutien à des régimes dictatoriaux comme celui du Tchad, présenté positivement comme rempart face au terrorisme. À Djibouti, où le dernier attentat remonte à mai 2014, le régime a directement instrumentalisé les exemples français et maliens au nom d'une menace globale, mettant en œuvre une décision préparée en réalité depuis le mois de juillet, en prévision des élections à venir, comme l'avaient dénoncé alors des militants djiboutiens. L'état d'urgence y a effectivement permis de réprimer dans le sang l'opposition, qui n'a ainsi pas la moindre chance aux élections à venir. Les rares députés de l'opposition ont même été exclus manu militari du vote de prolongation de l'état d'urgence au Parlement le 30 décembre. L'usage de l'état d'urgence à des fins électorales n'est pas un cas isolé. Ainsi, au Mali, l'état d'urgence décrété au déclenchement de l'opération française Serval en janvier 2013 a été prolongé à plusieurs reprises pour une durée de 6 mois, jusqu'à la veille de la campagne présidentielle. Des manifestations qui mettaient l'accent sur des problématiques sociales, notamment les protestations d'orpailleurs expulsés de leurs mines, ont été interdites. Comme en France, lors de la mobilisation contre la COP21, des manifestants qui avaient bravé l'interdiction ont été arrêtés. Selon des politiciens maliens, la dernière prorogation ne se justifiait pas, ou plus exactement, le gouvernement a utilisé opportunément les menaces sécuritaires pour empêcher les manifestations de rue qui bouillonnaient dans la capitale, au moment où s'ouvraient à Ouagadougou les discussions entre les autorités maliennes et les groupes armés Touareg. Un état d'urgence qui, selon certains, s'est appliqué de façon discriminatoire, puisque certains hommes politiques ont pu tenir leur meeting. L'ambassadeur français avait osé se réjouir de l'interdiction de ces mobilisations qui risquaient aussi d'écorner le mythe d'un bilan positif de l'intervention tricolore au Mali. L'état d'urgence a ainsi permis opportunément d'occulter certains enjeux sociaux et politiques à la veille de l'élection. Voilà, après ça, l'article continue encore, mais ça parle de plusieurs états d'urgence qui ont été mis en place dans tous ces pays-là, Nigeria, au Niger, en Tunisie, au Cameroun. Enfin, il y a plein d'exemples après. C'est un peu long, du coup, je vais pas tout lire. Mais voilà, je crois que je vais arrêter là.
On voulait parler de quelque chose qui se passe plus proche de chez nous.
Du coup, voilà, c'est en lien direct avec l'état d'urgence et une politique toujours plus sécuritaire. Et du coup, là, c'est une info qui concerne notre chère ville de Nantes. Du coup, ça date de mardi dernier. Et donc, je vais commencer par lire un article de 20 minutes qui est titré « Nantes, les policiers municipaux seront équipés de flashballs et caméras », avec écrit aussi dans le titre entre parenthèses « Mais pas d'armes à feu ». Super, on est contente. Sous-titré « Sécurité, les moyens et équipements de la police municipale de Nantes vont être renforcés », annoncé la maire ce mardi. Donc c'était mardi dernier. Ils n'auront pas d'armes à feu, contrairement au choix de certaines villes françaises et aux souhaits exprimés par le syndicat FO majoritaire à Nantes. La maire socialiste Johanna Roland y est opposée. Pour autant, la ville de Nantes va bel et bien renforcer les moyens et équipements de ses policiers municipaux. C'est ce qu'elle a annoncé ce mardi après-midi. Gilets pare-balles, caméras, piétons, flashball. Quatre équipements nouveaux, donc le titre il n'en contient que trois, mais il y en a quatre. Quatre équipements nouveaux issus de propositions d'un groupe de travail représentatif de policiers municipaux vont entrer en vigueur ces prochains mois. Des gilets pare-balles perfectionnés que les policiers porteront par-dessus l'uniforme, des bâtons de défense télescopique en remplacement des encombrantes matraques Tonfa. Donc ça c'était ce qu'il n'y avait pas dans le titre. Des caméras piétons que les agents garderont à la poitrine et pourront déclencher en fonction des situations. Et enfin, des lanceurs de flashball que les patrouilles auront à disposition dans leurs véhicules. Donc pour un usage collectif de défense en dernier recours. Donc ouais, ça j'avais lu un autre article qui disait que le flashball il reste dans la voiture, il est pour tout le monde. Et elle insiste bien sur le fait que c'est pas chaque flic qui a ça. Hein. Mais bon, après voilà, on sait bien aussi que petit à petit... Ça commence comme ça, et puis après, c'est plus ça. À ces mesures, il faut ajouter la possibilité d'écouter les ondes radio de la police nationale et un renforcement de la coordination entre les deux polices sur le territoire nantais. Et en plus de ça, 20 policiers supplémentaires recrutés. Ce n'est pas une logique d'armement, justifie Jean-Marie Roland, mais notre responsabilité est de garantir la sécurité et d'améliorer les conditions de travail de nos agents. La maire de Nantes a par ailleurs confirmé le recrutement en cours de 20 policiers municipaux supplémentaires. Les effectifs passeront de 95 à 115 agents afin de renforcer nettement la présence dans les quartiers à partir de 2017. Ces annonces vont dans le bon sens, se réjouit Franck Bourdin, un brigadier depuis 12 ans et représentant de la CGT de la police municipale de Nantes. Le renouvellement des gilets et des bâtons de défense constitue des avancées importantes. Il crée un mal-être chez les agents. Les caméras, c'est aussi positif. Les deux parties sont filmées, ça apaise les tensions. Ouais. Quant au flashball, c'est un outil qui peut s'avérer utile dans certaines situations. Oui, bah oui. Où les agents se sentent mis en danger. Donc voilà, ça c'était l'info 20 minutes. Et après, OS France, ce même jour, on disait un peu les mêmes choses. Et ils complétaient en plus qu'à propos de la vidéo, du coup, Johanna Roland elle est régulièrement interpellée là-dessus. Et du coup, ils disent qu'elle affirme rien de nouveau, mais qu'elle dit que c'est un engagement qui a été pris auprès de Nantes, qui sera tenu, qu'ils font les choses étape par étape et sérieusement. Voilà, que la caméra, c'est pas une solution miracle, mais c'est quand même une solution. Voilà, ça finit un peu comme ça.
Pour revenir sur le flashball, quand ils disent que c'est une arme utile, en ce moment, à Bobigny, il y a le procès de trois keufs qui avaient tiré et blessé 6 personnes au flashball en 2009 à Montreuil lors de l'explosion du lieu La Clinique. Et du coup, c'est en ce moment, sur Paris Lutte Info, il relaie jour par jour comment se passe le procès. Ça a commencé donc hier. Et il y a pas mal de mobilisation autour de ça, un collectif qui s'est monté après cet événement, le collectif 8 juillet, avec il y a une table de presse à l'entrée du tribunal, et en tout cas hier il y a des photos de beaucoup de flics qui sont présents, ils ont leurs armes sur eux dans le tribunal, et il n'y avait pas assez de place pour les soutiens à l'intérieur du tribunal, et voilà, mais il y a du monde dehors et ça gueule, et voilà, ça c'était la situation hier.
Et ben voilà, tout va bien. Ensuite, du coup, si on va chercher plus directement, qu'est-ce que Nantes a communiqué là-dessus, sur nantes-info.fr, c'est pas vraiment une pub, hein, c'est plus pour citer ses sources. Toujours le 15 novembre, bon, ils disent au début toujours la même chose sur les nouveaux équipements, etc. Et aussi, ça termine par une politique globale de sécurité et tranquillité publique avec des nouvelles mesures. Alors là, il parle de l'ouverture de services de la Maison de la Tranquillité Publique pour le 1er février 2017. Et donc là, j'ai un peu été voir qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Alors ils disent un accueil téléphonique spécifique avec une ligne dédiée, un nouveau site internet, un traitement individualisé des demandes et une réponse réactive aux demandes des usagers, une charte qualité sera garantie, information pratique, alors là il y a un numéro de téléphone, allô tranquillité publique, blabla, et deux sites internet, monde.fr tranquillité publique ou maison de la tranquillité.fr. Alors ce dernier site là il marche pas, et le premier qu'on va voir dessus, alors c'est un site un peu un site de la ville, quoi, tout propre et tout, avec une belle infographie majoritairement de bleu et de vert comme les couleurs majoritaires qu'on voit et qu'on ressent quand on arrive en ville, bien sûr. Et donc là ça explique, ça montre en quoi ça va servir cette maison de la tranquillité publique. Alors ça fait vraiment un truc tout propre et tout gentil, alors que moi, en le voyant, ça m'a plus fait penser à un truc qui ressemblerait à voisin vigilant, mais qui serait pas à l'échelle de quartier, mais à l'échelle d'une ville, en fait. Après, là, j'ai pas eu le temps de chercher plus comment ça va fonctionner et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, mais je trouve que c'est un truc à creuser qui est, en fait, un peu inquiétant quand même. Et voilà, c'était un peu la dernière info à creuser. Et aussi, après, qu'est-ce qu'ils disent? Déploiement de l'îlotage de proximité de quartier. Alors, ce qu'ils appellent l'îlotage de proximité, c'est les 20 nouveaux flics, en fait. Et voilà pour l'info nantaise.
Et pour continuer avec les violences policières, peut-être, on peut dire une autre petite brève, c'est le maire de Beaumont-sur-Oise qui porte plainte contre la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, pour diffamation publique. En fait, on rappelle que Adama Traoré, il a été tué le 19 juillet dernier dans la cour de gendarmerie de Beaumont-sur-Oise après son arrestation. Et par asphyxie, et il y avait eu des émeutes dans la ville, et quatre mois après, la sœur elle avait déclaré le maire n'avait toujours pas adressé le moindre mot de condoléance à la famille. C'est pour cette raison que Nathalie Groux, maire de Beaumont-sur-Oise, porte plainte, et en plus elle essaie de que les frais de ce procès soient payés par la mairie, par le budget communal, quoi. C'était des infos de Nouvelle Obs d'aujourd'hui. On avait encore des petites brèves, déjà par rapport à Nantes, pour rester proche peut-être, pour dire que probablement vous savez que ce matin, le squat de Doulon, la partie presbytère a été expulsée. C'était à 7h45, à 9h, l'expulsion était terminée. Et il y a un rassemblement qui est prévu à 15h samedi. Je cherche où c'est, je ne me rappelle plus. À Nantes. Au miroir de Fou. On avait d'autres brèves sinon, de un peu plus loin.
Alors, de un peu plus loin, c'est un peu plus qu'une brève, c'est une nuit d'émeute qui a eu lieu à Athènes la nuit du 15 novembre, si je me trompe pas. En fait, il y a Obama qui est venu à Athènes, invité par Tsipras, le jour même où en fait c'était la fête du 43e anniversaire de l'insurrection contre la dictature des colonels. Et cette dictature des colonels avait été mise en place par la CIA. Les camarades sur place ont vu ça comme une véritable provocation. Du coup, il y a eu un rassemblement en fin d'après-midi, un rassemblement anarchiste et anti-autoritaire à l'ouest du quartier rebelle d'Exarchéia. Et la rue, une des rues était, principales était complètement vide. Où ils mettent qu'aucun habitant n'avait commis la bêtise d'y laisser sa voiture en vue de la soirée brûlante qui s'annonçait. Il y avait des flics partout, le bruit des échos, la ville semblait subir une occupation. Autour de 20h, les détonations et les incendies se multiplient dans Athènes, notamment contre des banques. Les camions de pompiers sillonnent les avenues à toute allure. Depuis décembre 2008, on n'avait pas vu autant de flics dans Athènes. Ça n'empêche pas de nombreuses actions isolées en petits groupes en marge des grands cortèges. Il y a eu pas mal de tags et parmi eux, il y avait le tag « No Hope », »,« Pas d'espoir », qui était une dédicace spéciale à Obama, « Hope », mais aussi à Tsipras, dont le slogan de la campagne était, entre guillemets, « L'espoir arrive ». Ça, c'est donc publié sur le site de Yanis Yuluntas, c'est http://blogyy.net. Il met qu'en France et en Belgique, les masses médias français et belges occultent littéralement l'info ou la minimisent. Comme d'habitude, les émeutes se multiplient et se poursuivent tard dans la nuit. Il dit que le refrain des masses médias occidentaux est toujours le même. Tout est fini en Grèce depuis la capitulation de Tsipras. Surtout, n'en parlons plus, plus du tout. À 2h du mat, il y a eu une AG à l'école polytechnique, donc à la fac de Athènes, qui était occupée. Donc elle était occupée juste le temps de cette soirée-là, toujours dans le quartier d'Exarchéia. Ils ont décidé collectivement d'arrêter l'occupation parce qu'il y avait énormément de flics. Après 2h du mat, il s'est mis à pleuvoir un peu sur Athènes. Et 2 heures après, les incendies commencent à reprendre, plus à l'ouest. Ici, une banque, là, une boutique de luxe. Et ça continue un peu toute la nuit, où des groupes plus ou moins discrets zigzaguent à nouveau avec des cocktails Molotov dans le centre d'Athènes. Voilà, ça, c'est ce qui se passe un peu. Ils annoncent que toute la semaine, ça va bouger du côté de la Grèce. À Thessalonique aussi, il y a eu la fac occupée. Et dans notre ville d'Athènes, ça a bougé donc le 15 novembre et ça risque de bouger dans la semaine.
Eh ben, c'était... Ça marche pas du tout.
Ça marche, oui. Eh ben, c'était le brave, pas si brave que ça. Et je crois qu'on a fini notre revue de paresse, qui devait durer une demi-heure et qui dure plus de trois quarts d'heure. Peut-être on va renoncer à faire une demi-heure, à un moment on se dira qu'on va faire une heure. Comme ça, on ne sera pas frustré non plus, parce qu'on avait plein d'autres infos à donner, mais ça sera pour les prochaines fois. Mmh, et ça. Puis on avait la météo, mais j'ose même pas le dire, parce que la météo disait qu'aujourd'hui il faisait beau et qu'il ne pleuvait pas. Et comme il est en train de pleuvoir, bref, il va pleuvoir demain, après-demain, vendredi. Température entre 9 et 12 degrés. Un peu moins de vent que les derniers jours quand même.
Ouais, ça a l'air assez incertain. Moi j'ai regardé la météo aussi et j'ai jamais vu autant de conditionnels dans « ça devrait pouvoir rester à peu près tranquille ou à peu près stable, mais peut-être qu'il y aura quand même un petit peu de pluie, mais on sait pas trop, peut-être du vent, mais à voir ». Du coup j'ai l'impression que c'est l'incertitude, donc peut-être les surprises sont possibles.
Oui, alors on rappelle peut-être que cette émission repasse demain à 9h du matin, toujours sur Radio Klaxon 107.7 ou 87.5, et on rappelle le numéro de la radio peut-être.
C'est le 07 53 38 06 70, je répète, 07 53 38 06 70, et aussi on peut écouter Radio Klaxon sur le streaming, sur le site de la ZAD et sur radioklaxon.antirep.net.
Oui, voilà, comme ça vous pouvez écouter Radio Klaxon partout. Et du coup, on vous rappelle que le numéro il sert aussi pour nous envoyer vos impressions et qu'est-ce que vous en avez pensé, c'est quoi qui, c'est quelles informations que vous voudrez bien avoir aussi en plus. Voilà. Et ben, on écoute un dernier morceau, mais on vous dit un mardi prochain.
Ouais, c'est chouette si on a des retours, ça fait une revue de paresse un peu collaborative, ça c'est trop cool. Ciao, ciao.
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 Salut.
scoppa la colazione, si vede addormentarmi, si tuffa la finestra, mezzogiorno in penombra, sfondo bianco e pulito, sfondo bianco e pulito. Tre libertà invigilabile, tre che incontri se meriti, non ne girano molti, tanti in battezza le strade, come loro una vita, fa sacrifici al traffico, offre gli dei dei muri, anche la bussa una casa, un passato e un futuro, un presente che è Dio, e fa la cameriera, non ne girano molte, solo nei posti giusti, non ne girano molte, solo nei posti giusti.
La tôle.